que le journal du jour, le journal. Le voici, c'est celui d'aujourd'hui même, le journal, allez-y, le journal. C'est celui d'aujourd'hui même, le journal, allez-y, le journal.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Et bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi. Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Yes, enfin, on l'attendait. Et ce soir, on va commencer par quelques infos du Kurdistan. Après, on saura que Aurore Berger va finalement être jugée. Si jamais vous êtes passé à travers, je vous raconterai tout en détail. Pour Retailleau, ce qui compte, c'est bien le premier tour des élections. On parle des dernières élections. Et après, on va continuer avec Retailleau comme si c'était un titre de James Bond ou quelque chose comme ça. Retailleau contre le fils de Oussama Ben Laden. Hugo Prévost a été exclu de la France Insoumise. On se penchera sur cette affaire qui, ma foi, est bon. C'est moche. Après les JO, on garde les sales habitudes. Et puis on finira par une petite météo atlantique.
Waouh, trop bien.
Eh ouais, mais on va commencer par une brève. Parce que ce matin à Montpellier, 3 lycées étaient bloqués par les lycéennes et les lycéens contre le déni de démocratie Macron-Barnier. Quand on désespère du monde, des fois, les lycéennes, les lycéens, c'est bien agréable de les avoir. Personne n'attend un mot d'ordre, personne n'attend des syndicats, des partis ou je sais pas quoi. Allez, ça fait un mois que les cours ont commencé, il est grand temps de faire un blocage. Trop bien.
J'ai pas de...
on file au Kurdistan.
J'ai pas de petite musique.
Mais si...
Ah, d'accord.
Ne t'énerve pas, ça arrive.
Très bien. Alors, c'est pas grave, je vais commencer sans la musique et après elle viendra peut-être quand. Alors, si comme un train peut en cacher un autre, une guerre peut en cacher une autre, ça n'est pas vraiment le cas pour les Kurdes. En effet, si la folie meurtrière du boucher israélien Netanyahou s'abat plus particulièrement sur la Palestine et le Liban, elle impacte aussi le Rojava. À cause des attaques de l'armée israélienne sur le Liban, on compte déjà plus de 17 000 réfugiés arrivés dans la zone autonome kurde du nord-est de la Syrie pour fuir les bombardements, et ce n'est qu'un début. Et comme l'une des principales caractéristiques d'un mouvement révolutionnaire est la solidarité, le Croissant Rouge kurde prend en charge ces milliers de réfugiés. Ce qui n'est pas sans poser d'immenses difficultés, puisqu'il s'agit d'un territoire qui a vécu plus de 10 années de guerre contre Daesh, contre le gouvernement central de Syrie et contre la Turquie. Et il faut rappeler que ce territoire est toujours sous embargo de ces deux pays, la Turquie et la Syrie. Malgré les difficultés à mettre en place dans ces conditions une économie autosuffisante, les révolutionnaires kurdes du Rojava ont décidé de fournir logement et nourriture aux réfugiés. Et cela passe par un appel aux dons de toute la population qui sait la souffrance de la guerre et l'importance de l'entraide. Ensuite, on va partir en Turquie, dans la partie... en Turquie tout court. Arrestation de 5 femmes politiques kurdes, dont une mère élue. 5 femmes politiques kurdes, dont la co-mère, puisque vous savez que le parti de gauche turc, mais pro-kurde, fait toujours 2 co-mères, un masculin et un féminin pour la parité.
Des mères de mairie, quoi.
Des mères de mairie.
Ah, des co.
Oui, co-mère, c'est pour ça. C'est pour ça que j'essayais de...
Toutes les fautes,
voilà, voilà, là, c'est pas des co-présidents, c'est des co-mères, puisque du coup, dans ce parti, ils présentent toujours... Ils dirigent la mairie toujours à 2, un homme et une femme. Donc, 5 femmes, dont la co-mère de Sirte, ont été arrêtées ce matin. Dans les perquisitions effectuées dans la matinée dans le district de Misjere, la co-mère de la municipalité de Misrirje, Sadie Akten, la coprésidente du Parti de l'égalité des peuples et de la démocratie, la coprésidente du district de Midjiré, du Parti des régions démocratiques, etc., etc., ont été arrêtées. Les 5 femmes politiques arrêtées ont été emmenées au département de police du district de Kurtalan, mais le motif de leur détention n'a pas été connu. Ensuite, on part cette fois au Rojava. La commandante des unités de protection des femmes, YPJ, Jinda Judy, a été tuée le 3 octobre 2024 lors d'une attaque de drone menée par l'armée turque sur la route reliant Kamishlo à Amoudé. Née en 1985, à Chernak, engagée dès sa jeunesse dans les activités de résistance, Jinda avait rejoint les rangs du mouvement pour la liberté du Kurdistan en 2003. Elle a ensuite pris part à de nombreuses batailles contre les djihadistes de l'État islamique, notamment à Jaza, Rabia et Serekanié, où elle s'est distinguée par son courage et sa détermination, malgré le fait qu'elle ait été blessée au combat. Les YPJ ont conclu le communiqué annonçant sa mort en promettant de poursuivre la lutte pour protéger les acquis de la révolution du Rojava, un combat symbolisé par la figure de Jinda Judy. Nous continuerons à défendre notre révolution avec détermination. Le sang de nos camarades ne sera pas versé en vain. Alors là, on parle beaucoup de femmes et arrêtées et assassinées. Et je vais reparler une fois de plus à ce micro, comme j'en ai déjà beaucoup parlé, de Nagihan Akarsel. Puisqu'un hommage lui a été rendu aujourd'hui sur sa tombe à Konya. Alors on le rappelle, Nagihan Akarsel avait été tuée par un agent du MIT alors qu'elle sortait de chez elle, alors qu'elle était réfugiée en Irak, puisque elle venait de Turquie. Alors pourquoi je vous en parle à chaque fois? C'est parce que elle était venue.
Tu peux nous dire ce que c'est que le MIT?
Alors le MIT, pardon, oui, tout à fait, c'est les services secrets turcs. Alors oui, moi j'en parle à chaque fois d'elle parce qu'effectivement il y a un petit côté de proximité avec elle, puisqu'elle était venue dans un petit village de la Loire faire un exposé sur la généalogie. Alors qui était Nagihan Akarsel? Nagihan Akarsel était une personnalité connue au sein de la communauté kurde et du mouvement international de la généalogie. Elle était active en politique depuis 30 ans, elle a étudié le journalisme à Ankara et longtemps travaillé comme journaliste et chroniqueuse, notamment à la rédaction du magazine Généalogie. En raison de son engagement dans le mouvement kurde, elle a été emprisonnée pendant des années en Turquie. Et après 1994, elle a partagé un temps, une cellule avec la célèbre politicienne kurde Leyla Zana. Au Rojava, elle a encouragé le travail éducatif dans le domaine de la généalogie et effectué des recherches sur l'histoire des femmes à Afrin. À Shengal, elle a mené des recherches de terrain sur la situation des femmes après le génocide commis par l'État islamique. Plus récemment, elle avait travaillé avec des femmes du sud Kurdistan au centre de recherche sur la généalogie. Du coup, on comprend bien avec ces informations qu'en fait, c'était une intellectuelle, c'était pas une guérilla. Son dernier projet était la création d'une bibliothèque pour les femmes kurdes. Mais le 4 octobre 2022, Nagihan Akarsel a été abattue devant son domicile alors qu'elle se rendait à la bibliothèque pour femmes de Souleymanié. Son meurtrier, Ismail Peker, avait été recruté par le MIT dans une prison turque. Ensuite, on revient en Europe, puisque la répression contre les Kurdes ne s'abat pas que au Moyen-Orient, elle s'abat aussi en Europe. Le centre kurde Navenda Kurdistanienne Berliner, qui se trouve à Berlin, a été perquisitionné par la police allemande. On a appris qu'aucun mandat de perquisition n'avait été présenté lors de la, lors du raid de la police berlinoise. Pendant le raid effectué par des équipes de police spéciale, des armes ont été pointées sur les personnes présentes dans le centre et les personnes ont été menacées. Hussein Yilmaz, membre du centre de la société démocratique et un membre dont le nom n'est pas connu, ont été arrêtés et emmenés au poste de police. Pour l'instant, pas plus de nouvelles. Quant à la France, beaucoup plus généreuse, elle décide de suspendre l'arrêté d'expulsion d'Idriss Kaplan, réfugié politique kurde en France, condamné à perpétuité en Turquie. Sachant que l'un de ses frères est en prison en Turquie, tandis qu'un autre a été tué en 2015 lors de l'assaut de l'armée turque sur la ville de Cizre au Kurdistan turc. Alors la France est magnanime puisqu'elle ne l'a pas expulsé, mais parallèlement elle l'a condamné pour activité et financement et appartenance à une organisation terroriste, en l'occurrence le PKK, Parti des Travailleurs du Kurdistan, à, alors je n'ai plus la peine exacte de prison, mais c'est environ 4 ans ferme.
On retourne en France cette fois-ci.
Et alors non, en fait pas tout de suite parce que je viens de décider qu'il fallait quand même que je vous fasse au débeauté puisque finalement personne s'en est chargé. Un petit tour par le Liban, Israël et Gaza. Alors je vais essayer de faire un petit peu rapidement mais quand même. J'imagine que vous avez déjà entendu que Netanyahou a menacé les Libans de les détruire comme il est en train de détruire Gaza, de autant de souffrance et de mort, je crois qu'il a dit, si les Libanais ne se soulèvent pas contre le Hezbollah pour se débarrasser du Hezbollah. Alors voilà. Bon, outre le fait que, évidemment, c'est une menace qui est quand même vraiment hyper dégueulasse, enfin je veux dire, en soi, ça veut dire, d'une part, qu'il reconnaît que ce qu'il est en train de faire à Gaza, c'est des massacres, des larmes et du sang et de la destruction. Ensuite, dire à un peuple que s'il ne se rebelle pas contre des gens qui, par ailleurs, sont pas plus sympathiques que ça, hein, mais en tout cas qui sont leurs salauds à eux et qui par ailleurs sont méga armés. S'ils le font pas, du coup c'est un ennemi extérieur qui va venir les pilonner. Outre le fait que pour le coup là on en est, contrairement à quand Israël attaque Gaza, Gaza est disons officiellement du côté des Nations Unies. Gaza est une partie du territoire israélien, donc c'est en quelque sorte une histoire interne. Quand ils attaquent le Liban, c'est une guerre d'agression. On est sur un truc où pour le coup c'est de plus en plus difficile pour les, comme on dit, pour les chancelleries occidentales de justifier un soutien à Israël et une condamnation de Poutine qui attaque l'Ukraine. Mais surtout en fait les chancelleries occidentales semblent en avoir de moins en moins envie parce que le Liban c'est pas Gaza, parce que le Liban, alors il y a en particulier en France il y a une sorte d'histoire d'amitié entre la France et le Liban dont en réalité je sais pas exactement sur quoi elle repose, mais qui est une vieille histoire et qui là est en train de se réveiller et qui marche aussi entre autres et beaucoup avec la droite française, entre autres parce qu'au Liban c'est sûr que c'est des Arabes, mais une partie d'entre eux sont chrétiens et la droite française, qui sont cons comme des balais, hein, quand on leur dit chrétiens ils ont un petit réflexe de vouloir défendre. Toi t'as une info à dire sur...
Non mais il y a quand même un lien d'amitié très fort et ancien entre la France et le Liban, notamment on se rappelle l'amitié entre Jacques Chirac et Rafik Hariri, etc.
Oui c'est ça, ce que je disais c'est que je sais pas d'où ça vient, mais effectivement ce lien est fort et il est ancien. Résultat, là on en est quand même à un moment où peut-être que c'était quand même un peu une connerie de Netanyahou, d'une part d'attaquer le Liban et d'autre part de faire des menaces aussi je sais pas, grand guignol, enfin non c'est pas grand guignolesque parce que le pire c'est qu'on
n'a pas les mots quand même.
Ouais.
Hein, on en a du mal à trouver les mots,
c'est
sur
ça,
ce genre de truc.
On a du mal à trouver les mots. Mais en tout cas, là, au point où on en est, c'est que non seulement Macron, il y a quelques jours, a dit qu'il fallait peut-être commencer à réfléchir à arrêter de livrer des armes à Israël. Bon, Macron, bien sûr, il peut, je veux dire, on a plus rien à foutre de ce qu'il pense parce que Macron, c'est la reine d'Angleterre, il a plus aucun pouvoir de décision sur rien. Mais la droite française, qui quand même déteste globalement les Arabes au point de finir par en oublier qu'ils sont antisémites, la droite française en tout cas est prête à a condamné l'agression contre le Liban. Et alors non, alors pour le coup, c'est Macron qui compte accueillir à Paris une conférence internationale pour défendre le Liban, sa sécurité, ses frontières et je me rappelle plus quoi. Mais vraiment un truc qui finalement est assez directement sur ce coup-là anti-Netanyahou. Donc c'est à surveiller, mais c'est pas impossible qu'on soit à une sorte de tournant dans, en tout cas, le soutien occidental diplomatique à la guerre de massacre de Netanyahou.
Ce qu'il faudra surtout suivre, c'est le soutien des États-Unis, parce que pour le coup, la France,
évidemment,
s'ils livrent des trucs, c'est a priori plutôt des petites broutilles.
De toute façon, rien ne se passera de décisif avant les élections.
C'est ça.
Voilà, et voilà. En sachant que le gouvernement espagnol en pointe dans qui essaye d'arrêter Netanyahou comme il peut, au moins dans ses déclarations, s'est aussi prononcé fermement contre l'attaque d'Israël contre le Liban.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Ah, cette fois-ci, on retourne en France.
Cette fois-ci, on retourne en France, puis on va revenir sur des trucs un peu plus légers quand même, le spectacle de la classe politique française dans ce qu'il a parfois de spectaculaire. Alors, c'est cette pauvre Aurore Berger. Aurore Berger, c'est sûr et certain, cette fois-ci, Aurore Berger va passer devant les juges. Elle aura un peu trop cru aux magnifiques promesses du macronisme, un monde enchanté où les ministres peuvent tout se permettre sans qu'il n'y ait jamais aucune conséquence. Elle a juste oublié que la roue électorale tourne. Alors, pour revenir un peu en arrière, Aurore Berger a été accusée dans le livre de Victor Castanet qui s'appelle Les Ogres, un bouquin qui est sorti il y a quelque chose comme un mois ou deux, un livre d'enquête sur les crèches privées. Crèches privées qui prennent une thune incroyable aux parents et à l'État pour garder les enfants dans des conditions de maltraitance vraiment trash. Bref, dans ce bouquin, on apprend que Aurore Berger, quand elle était ministre des Familles, était aussi super bonne copine avec la lobbyiste des crèches privées, Elsa Hervy. Et que du coup, elle a contribué à étouffer le scandale qui aurait pu être quand même bien plus grand, en particulier quand à Lyon, une employée d'une crèche privée, pas trop formée, seule avec plein de mômes, quand même sérieusement cinglée, mais malgré tout en poste, a, ma foi, fait boire du desktop à un bébé qui en est mort. Une histoire vraiment, vraiment trash, mais en même temps, le fonctionnement des crèches privées, disons, ne fait rien pour empêcher que ce genre d'histoire arrive. Alors, quand on dit crèche privée, bien sûr, il y a crèche privée et crèche privée. Il y a les groupes qui veulent faire de la thune et il y a certaines petites crèches privées associatives qui ne sont pas à mettre dans le même sac. Là, on parle bien des crèches privées qui machinent
à
pognon, quoi. Lucratives. Alors, oulala, Aurore Berger, quand le livre est sorti qui racontait tout ça, elle n'a pas aimé. Elle a direct porté plainte pour diffamation. Mais enfin, ce qu'il y a dans le livre, ça a l'air assez étayé quand même, avec des citations de mails et tout. Bref, à l'Assemblée nationale, maintenant que la gauche a réussi à choper la majorité au bureau, ça se passe plus comme avant et les macronistes peuvent plus se couvrir les uns les autres pour tout et n'importe quoi. À l'Assemblée, le problème... À l'Assemblée, le problème de cette histoire, c'est pas tant que Aurore Berger a couvert le scandale en laissant passer des maltraitances graves, c'est quand même plutôt que devant une commission d'enquête, elle a affirmé sous serment qu'elle n'avait aucun lien particulier avec cette Elsa Hervy, la lobbyiste des crèches privées. Elsa Hervy, dont, dans un mail écrit par Aurore Berger par ailleurs, elle dit... C'était surtout une copine. Donc aucun lien, mais quand même, c'était surtout une copine. Elle dit c'est surtout une copine, c'est au moment où ça se passe. Et ça, ma foi, mentir devant une commission d'enquête de l'Assemblée, c'est très mal. Théoriquement, elle risque quelques années de prison. Et donc aujourd'hui, le bureau de l'Assemblée a officiellement demandé qu'il y ait des poursuites pénales contre elle pour parjure. Mais attendez, on va quand même terminer sur le plus drôle. Que fait une macroniste quand elle sait vraiment plus quoi dire, qu'elle a vraiment le nez dans son caca ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que de toute façon, c'est tout la faute à... aux musulmans, vous allez dire.
J'allais dire aux immigrés.
Eh ben non, ça, tu t'es trompé. Ça, c'est le Rassemblement National. Les macronistes, c'est vrai, des fois, ils le font. Mais quand même, ils ont un autre bouc émissaire qu'ils préfèrent encore. C'est tout la faute à la France insoumise. Et donc, pour Aurore Berger, le nouveau Front Populaire a ouvrez les guillemets, a sans surprise décidé une nouvelle fois de se soumettre à la France insoumise. Quel rapport ? Et à sa demande infondée à son encontre. Ah bon ? Elle ajoute en disant « La gauche n'en finit plus son naufrage politique et démocratique. » Aucun naufrage politique et démocratique, par contre, quand elle favorise les lobbies qui maltraitent les gosses en se remplissant les poches d'argent public.
Canu Info.
Ah, et on va continuer à parler de politique française, et on va parler du Bruno Retailleau qui a déclaré que ce qui compte pour lui, bon, il fait beaucoup de déclarations, il est quand même assez rigolo. Hein.
Il déclare en ce moment.
C'est le premier tour des élections législatives. Alors, il a déclaré ça pas en public sur BFM TV, mais c'est lors d'une réunion qu'il a eue avec les préfets. Et cette citation est donc relayée par Le Monde, qui a eu du mal à ce qu'elle soit confirmée par des gens qui disent pas qu'il a effectivement dit ça, mais sous couvert de l'anonymat. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression quand même qu'il fait un peu régner un peu une espèce d'ambiance de terreur. C'est-à-dire que si tu l'ouvres un peu trop, tu risques de perdre ta place. Bref, donc ça a été quand même confirmé par plusieurs personnes sous couvert d'anonymat. Bon, c'est vrai que nous, dans ce studio, on est plutôt partisans du troisième tour dans la rue, hein, et on a un peu chacun nos raisons. Retailleau pour justifier son programme d'extrême droite, et nous, soyons honnêtes, il y a plus d'ambiance et de fumée dans les cortèges que dans un bureau de vote. Bref, le locataire de la place Beau a donc fait sa réunion comme promis avec les préfets, où il a parlé immigration, immigration et immigration, qu'il souhaite voir réduire à tous les niveaux, légal, illégal, étudiante, etc., etc. Vu que, ne lui en déplaise, les députés eux sont élus avec les résultats du second tour, ils risquent de galérer à choper donc cette fameuse majorité parlementaire pour faire valider une loi. Il va donc faire ce qu'il a annoncé, passer par des décrets et circulaires, évitant donc tout vote. Là, c'est au préfet qui s'adresse, donc c'est par circulaire que ça passe, et c'est donc deux circulaires qui vont voir le jour dans les prochains temps. Dans la première, je le cite, il demande au préfet de lui rendre des comptes et de lui faire remonter des tableaux de bord sur les hausses des expulsions et la baisse des régularisations. Le ton est donné. Il a également demandé au préfet de mettre en œuvre des dispositifs introduits dans la loi immigration de janvier 2024. On le rappelle, déjà voté avec le RN, comme par exemple la fin de la protection limitant les possibilités d'expulsion pour certaines catégories de cas, comme par exemple si la personne est arrivée en France avant l'âge de 13 ans. Parce que c'est vrai qu'à 11 ans, si vous aviez encore un peu le courage de vous rebeller face au choix de vos parents d'aller s'installer dans un autre pays, plutôt que de rester là où vous êtes né, bah ce serait pas mal. Bon, ça c'était la circulaire concernant les expulsions, et c'était bien mal connaître Retailleau que de penser qu'il allait oublier les régularisations. Enfin, l'absence plutôt de régularisation. Fini l'ultra-laxiste circulaire Valls qui date de 2012 et qui permettait à n'importe quel avocat, avocate en droit des étrangers de faire régulariser leurs clients, clientes en fournissant vaguement une preuve de travail ou un certificat de scolarité. C'est fini la récré pour eux. Il n'a pas vraiment précisé ce qu'allait contenir cette circulaire, mais il a insisté sur la maîtrise du français et l'assimilation aux valeurs de notre société française. Et il a continué sa réunion en citant des grandes personnes de notre siècle. Par exemple, il souhaite prendre exemple sur le gouvernement post-fasciste de Giorgia Meloni avec la volonté de signer un accord de coopération avec le gouvernement néo-fasciste tunisien fraîchement réélu sur un programme, tiens donc, anti-migrants. Et il souhaite se servir du levier pour obtenir, bon ça je l'ai déjà répété, il le répète lui-même en boucle, alors on continue, d'obtenir plus de laissez-passer en jouant sur les visas. De l'aide au développement et aux accords commerciaux, comme si tout ça n'allait que dans un sens. C'est-à-dire comme si lui pouvait seulement se dire, bah, en fait, c'est simple, il suffit de leur couper des trucs, et en fait, comme si eux, ces pays-là, il n'y avait rien il n'y avait aucun avantage pour la France à avoir des accords. En général, quand il y a un accord commercial, ça joue dans les deux sens, et ça paraît un peu compliqué d'y mettre fin. Voilà. Bon, je pense qu'à peu près chaque mercredi, on aura un peu des sorties sur ce ministre.
Ah, attends, parce qu'effectivement, c'est pas fini.
Ah, c'est pas fini. Ah bah oui, c'est vrai.
Bruno Retailleau contre le fils d'Oussama Ben Laden. Et là, j'aimerais une musique de James Bond.
Ah putain, c'est vrai, mince.
On ne l'a pas, tant pis, vous avez qu'à vous l'imaginer. Un fils de Oussama Ben Laden interdit de séjour en France, annonce de Bruno Retailleau. Alors décidément, il tient à faire parler lui tout le temps, plusieurs sujets par jour si possible, pour n'importe quoi, pourvu qu'il soit vu en train de taper du poing sur la table. Alors, on apprend de une qu'un fils d'Oussama Ben Laden habitait en France. Alors, en fait, pas vraiment, mais qu'il y séjournait à plusieurs moments, depuis plusieurs années, en tant que conjoint d'Européennes. Que par ailleurs, ce fils d'Oussama Ben Laden était artiste et qu'il a fait une expo dans un petit village du Sud. Et mais comme c'est le fils et pas le père, j'imagine qu'a priori, on l'apprend, mais qu'on n'en avait aucune raison d'en avoir quoi que ce soit à foutre. Mais j'imagine aussi que Retailleau, lui aussi, a dû découvrir ça avant-hier. Et qui s'est dit, tiens, y a toujours moyen de faire un petit coup d'éclat quand je découvre un truc. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il l'interdit de séjour. Parce que, nous explique le dit Bruno Retailleau sur XX Twitter, ce fils d'Oussama Ben Laden a, ouvrez les guillemets, accueilli sur ses réseaux sociaux en 2023 des propos relevant de l'apologie du terrorisme. L'autre, il a accueilli sur ses réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il n'a rien écrit, visiblement. Il est juste que quelqu'un a posté un truc sur son Facebook ou je sais pas quoi. Mais a priori, c'est pas lui qui a écrit. Alors, qui a écrit et qui a écrit quoi, surtout, Retailleau ne le dit absolument pas. Autant dire que ça doit franchement pas avoir de gueule du tout.
Mais surtout qu'en plus, il avait déjà eu une OQTF par rapport à ça, qu'il était déjà parti avec ça. Et du coup, il était venu en France pour effectivement, je crois, cette expo. Et en fait, Retailleau en a profité pour lui faire une interdiction. Mais ce qui est assez rigolo, c'est de voir comment les journaux ont couvert ça. C'est-à-dire que le JDD et deux ou trois autres journaux ont en fait dit que Retailleau avait expulsé ce gars-là, alors qu'en fait, lui, il a su son interdiction, du coup, il s'est barré direct, parce qu'en fait, il s'est dit...
Oui, c'était une OQTF prononcée par Darmanin.
Il y a cette OQTF, et l'interdiction, du coup, elle allait courir là, maintenant, quoi. Et du coup, voilà. Et c'était assez rigolo de voir les médias qui, effectivement, étaient prêts à vanter les mérites de Retailleau sur ce coup-là.
Canu Info. Du mercredi.
Allez, c'est encore moi qui parle. Putain, vous avez vu ça, la France insoumise. Alors, c'est pas comme les macronistes. Quand un gars au sein du parti est accusé de harcèlement sexuel, ça réagit. Hugo Prévost, député La France insoumise de l'Isère, accusé de faits graves à caractère sexuel pouvant relever d'infractions pénales antérieures à son élection, a été exclu du parti cet après-midi. Enfin, pas du parti, en fait, du groupe parlementaire, parce que la France insoumise, on se rappelle, n'est pas un parti, ce qui en soit une sorte d'arnaque pour éviter la démocratie interne, mais je m'égare, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est donc que la France insoumise, en tenant les revendications féministes, n'hésite pas à virer un député, un jeune député, âgé de 25 ans, sans particulièrement d'amis connus au sein de la France insoumise ou ailleurs, sans grosse couverture médiatique jusqu'à cette histoire. Quelqu'un donc dont le profil ne ressemble pas tellement à celui de Adrien Quatennens, en résumé. Parce que, quand même, c'est vrai que ça fait contraste. Dans le cas de Hugo Prévost, le mouvement a réagi vite, sans même qu'une plainte ait été déposée. Dans le cas de Quatennens, député médiatique et surtout ami proche de Mélenchon, après une plainte de sa femme pour violence conjugale, le parti a continué à le soutenir. Mélenchon lui a tweeté ses encouragements pour les épreuves qu'il subissait, lui, pas sa femme. Et aux dernières législatives, il a de nouveau été investi avant de quand même finir par se retirer parce que quand même ça avait fait un sacré paquet de protestations. Bon voilà, vous vous souvenez de la fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste? Elle se terminait comme ça. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
Et c'est vrai que si on peut que se féliciter quand même qu'ils prennent tout ça un peu au sérieux, c'est vrai effectivement que suivant le pouvoir qu'on a au sein du parti, il semblerait que ce ne soit pas traité tout à fait de la même manière.
Bien sûr, ce que j'en disais n'était pas du tout pour soutenir ce Hugo Prévost, qui ne le mérite sans doute pas. Enfin, j'en sais rien.
Du mercredi.
Eh bien, j'ai encore puisé un article dans le site d'information Info Migrant qui révèle que la politique des Jeux Olympiques, c'est-à-dire, enfin bon, là en l'occurrence, ça parle des migrants, qui parle d'expulser systématiquement en moins de 24 heures des mineurs isolés à Paris de manière continue, et ben devinez quoi, cette politique a été mise à continuer malgré les JO. Après avoir été mis dehors et pourchassé pour que Paris devienne une capitale carte postale pour les touristes et sportifs, de nombreuses personnes sans abri, dont une majorité de mineurs isolés, reviennent donc dans la capitale, espérant de nouveau peut-être y trouver refuge. C'est peut-être un bien grand mot vu ce qui leur arrive. Sauf que les expulsions de campements sont tout aussi fréquentes que pendant les JO, dénonce Utopia 56, qui a pu constater que le campement ne dure pas plus de 24 heures, avec bien évidemment aucune mise à l'abri derrière. Pour les mineurs isolés non reconnus comme tels, les mineurs non reconnus comme tels sont systématiquement exclus de tous les dispositifs. De l'ASE, qui ne les prend pas en charge car l'aide sociale à l'enfance concerne uniquement les personnes de moins de 18 ans, et ils sont également refusés dans les SAS en région. Donc les SAS, c'est les endroits en gros où on expulse les personnes dans Paris et on les balance en région, et ils sont également pas accueillis par le 115 n'accueille pas d'adultes, vu qu'ils sont mineurs. Isolés, je veux dire.
N'accueille pas de mineurs isolés.
Pour la plupart, ils essaient donc de trouver un spot où dormir à la fin de leur journée de boulot. Vers 21h, en général, ils s'installent et sont dégagés à 6h du matin par les flics qui font des rondes en permanence. En plus de plonger ces jeunes dans une très grande précarité, ils les éloignent des associations et réseaux de solidarité dont ils pourraient bénéficier. Alors, lien direct ou pas, toujours sur Info Migrant, il y a un article concernant le Centre de Médecins du Monde, et plus précisément celui de Seine-Saint-Denis, qui est déserté depuis sa réouverture dans ses murs après les JO. Depuis bientôt 20 ans, le CASO, pour Centre d'accueil de soins et d'orientation, accueille de manière inconditionnelle n'importe quelle personne qui se présente. La salle d'attente habituellement chargée est presque vide le jour où la journaliste vient faire le déplacement. Pendant les JO, Médecins du Monde avait choisi de déplacer le centre dans des villes voisines pour ne pas surexposer les personnes sans papier qui se seraient présentées à elles par la présence massive de policiers dans les rues, et durant les deux mois et demi des JO. Mais même après 15 jours, le centre ne trouve pas son public. Les coordinateurs notent une baisse de fréquentation d'au moins 50%, ce qui est quand même énorme, ce qui interroge. Les personnes n'ont pas disparu, elles restent bien là. Il y a donc un fort risque qu'elles s'éloignent des dispositifs de soins. Et donc lui, pour l'instant, ne fournit pas, n'a pas d'explication à ça. Il ne sait pas si c'est parce que les gens ont perdu l'habitude, si c'est parce que les gens se trouvent moins légitimes à venir pour des soins. Enfin bref, il y a tout un tas de possibilités, mais il y a également la possibilité que la peur du contrôle qui est née avec le déplacement du centre et la présence massive qui a engendré le déplacement du centre pendant la période de JO, quand même cette peur-là soit un peu ancrée pour les personnes et qu'elles aient du mal à s'en défaire. Et c'est quand même pas, ce serait pas non plus dingue vu les récentes déclarations du ministre de l'Intérieur.
Canu Info du mercredi.
Ouais, de la météo.
Avant de se quitter, on va faire un petit point météo, mais plutôt de la météo atlantique, parce que, alors ceci dit, de la météo atlantique, mais ça vient jusqu'ici. Vous avez vu, il y a quand même un peu de vent aujourd'hui dans les rues à Lyon.
Ouais.
On dirait quand même que c'est pas grand chose par rapport au vent qu'il y a dans le nord et un peu plus loin à l'est de la France. Et même le nord et le nord-est de la France, encore, ça a l'air d'être pas grand chose par rapport à ce qui attend la Floride. On parle de vent à 240 km/h. Alors, quand même, en France, quand il y a 100 km/h, c'est déjà une tempête. Là, on parle de quand même beaucoup plus que ça. C'est l'ouragan Milton qui s'approche. Il devrait arriver dans les heures qui viennent et ça va être quelque chose. Le président Biden a eu un instant de lucidité et il a dit tout simplement aux habitants du troisième état le plus peuplé des États-Unis : vous devez évacuer immédiatement, c'est une question de vie ou de mort. Et puis après, ma foi, il a à nouveau sombré dans... Il a fait des bruits de bave et puis ça s'est arrêté. Parce que, et en particulier, il n'a pas précisé comment les gens allaient évacuer. En fait, c'est les États-Unis, alors on dirait que personne ne veut planifier quelque chose, ça serait trop communiste. Bref, certaines personnes sont effectivement en train de se barrer. Disons les gens qui ont assez de fric, qui ont une voiture ou, et qui sont assez raisonnables, ma foi, qui savent qu'une tempête, ça, que les tempêtes ça existe, que c'est pas un complot de, un complot du Parti démocrate ou que sais-je. Les autres, ma foi, se démerderont bien. En tout cas, les spécialistes se gardent bien de dire que ce phénomène, celui qui fait qu'il y a actuellement trois ouragans concomitants dans l'Atlantique, c'est-à-dire un truc qui était a priori jamais arrivé, que ce phénomène est dû au changement climatique, parce que c'est des scientifiques, il leur faut beaucoup beaucoup de preuves pour affirmer quelque chose. Moi, ma foi, je suis pas un scientifique, j'ai juste besoin que ça saute aux yeux, et c'est le cas. Je sais pas si vous vous souvenez, avant 2002, les catastrophes naturelles, il y en avait, mais c'était quand même des trucs exceptionnels. Il y en avait une dans l'année ou deux partout autour de la planète, et on parlait pas à chaque fois de records. Voilà, tout ça juste pour dire que, ma foi, ça va vite.
Tu veux dire pas que le vent?
Ouais, c'est ça.
Eh bien, il est 19h37. C'est
On peut juste avant, s'il est bien à l'heure de se quitter, juste avant de se quitter, on va peut-être rappeler quand même le rassemblement pour la Palestine et pour le Liban, du coup, samedi de 15h à 17h, place Bellecour.
Tout à fait. Ce samedi.
Oui, ce samedi.
Eh bien, nous, on vous laisse avec quelques minutes de bande continue et on se retrouve la semaine prochaine. Et normalement, à 20h, vous retrouverez Idées Noires. Merci de nous avoir écoutés.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org. Rebelle des radios.
Hey, vous êtes toujours bien sur Radio Canu, on a écouté The Clash avec la version instrumentale de Jenny Jones suivie de UHT avec le morceau Décembre. Et Clarence Park avec The Dogs, on continue la plus rebelle des radios. Yes.
Set up the linery. Man, I beg you fi set up the linery. Mr. D, my sound a play. Now set up the linery. Writing down your lyrics always keep me up. Every day filling up me notes. Sail the rhythm like fishing boats. People singing loud me quotes. All night I be calling it. So check this. Salva
when we give them no mercy. Microphone kickers and me FC. Alright, first leg, second leg, third leg. I need me pan the body, I'm a the derby. New sound clash, lyrics well dirty. Hit me now, sweat a drop on me jersey. Right comfortable like Bentley. Me wall on firm to me journey. Drink me flow when you're thirsty. Mix up the rhyme juice with a sweet sensei. Master work like churning. Nastier vibe than Cersei. Bigger than Turkey. Minimum one track per day. Full time me finish the truth early. Favorite singer at the survey. Now me have new funds in a Bombay. Plop to the scene like a cable. Shake on the beat when a vibe well stable. Always have a seat at the table. Deep with the label. Calibrated or written a rebel. Memorable recall of a cable. Don't show redirecting the path of me vessel. Let me feed with the sound of the rebel. This a true story, this a no fable. Give me a mic on the rhythm. Me chatter the cream and the crop when me chop it and chop. Jumping no flop, we always cause a flop. We are sharper than that and a tear than top. Here when me talk on the project, well hot. Be my take when I ring, well me give it a shot. Rock, we are rock till we wake up the crowd. Them in shock, but we have just been joking a lot. I like to be calling it. I like to be calling the vibe, yeah. I like to be calling it. Inspiration from the sound and the city. I like to be calling it. I like to be calling the vibe, yeah. I like to be calling it. Words on melody stop me from falling. Writing down new lyrics always keep me up. Each and every day I've been fun filling up me notes. Sailing up the rhythm like a fishing boat. Dreaming of a bunch of people singing loud me quotes. Turn up with sound when you're feeling bad. Positive effects are we musical clinic last. Went on from Europe to Trinidad. Candidate for best MC Marsilia City had. Set up the linery. Crank up the bass, chase the sound boy away. Man, I beg you fi set up the linery. Better be steady when my sound I play. Would you please set up the linery? Microphone ready fi catch every style. Now set up the linery. We want a moment brighter than a day.
Talk to the scene like a cable. Shake on the beat but a vibe well stable. All of us have a seat at the table. Deal with the label. Can be better than a label. Memorable recall of a cable. Don't show redirect in the path of me vessel. Tell me feel with the sound of the rebel. This a true story, this a no fable. Give me a mic when I ready. Me chatter the cream and the crop. When me chop it a chop. Can be no flop, we are worse cause a flop. We are sharper than that and a tear than that. The way me talk on that project will help. Be a magic when I bring when we give it a shot. Rap we are rock till we wake up the world. Damn it chop but we have just been jumping a lot.
I like to be calling it. I like to be calling the vibe, yeah. I like to be calling it. Inspiration from the sound and the ceiling. I like to be calling it. I like to be calling the vibe, yeah. I like to be calling it. Words and melodies stop me from falling. Set up the linery. Chase the sound boy away. Man, I beg you fi set up the linery. Better be steady when my sound I play. Will you please set up the linery? Microphone ready fi catch every style. Now set up the linery. We want a moment brighter than a day.